Merci d'écouter Radio Bonheur avec le magazine des déchaînés du football. Il est 19h04. Le magazine des déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Avec Gaëtan Pinel. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Les déchaînés du football avec, comme à chaque fois, nos équipes que nous suivons en Ligue 1 et en Ligue 2. En Ligue 1 tout d'abord avec Brest et Lorient. Hein, et puis à partir de 20h avec l'en avant Guingamp pour la Ligue 2. On parlera entre les deux un peu avant 20h aussi du championnat de national de la 3ème division puisque Concarneau et Saint-Brieuc ont également joué ce week-end. Les clubs pro que nous suivons ont encaissé 8 buts, en ont marqué 2. Un week-end compliqué pour Lorient, pour Guingamp, moyen pour Brest, ça aurait presque pu être parfait pour les Brestois qui ont frôlé la victoire. Ça a été vraiment à un cheveu, le 3ème but n'est pas passé loin, mais voilà, il faudra un peu plus de réussite la prochaine fois pour les Brestois contre Montpellier. En tout cas, un bon match, somme toute, malgré tout, pour les Brestois qui font match nul sur leur pelouse et qui enchaînent aussi les matchs sans défaite. Gaëtan,
oui,
vous étiez
qui accroche
à ce
encore
match,
une
ce
équipe
week-end.
Du top 5, puisque après avoir accroché Lyon mercredi dernier 2-2, le deuxième de Ligue 1, ils ont cette fois accroché Montpellier 5ème de Ligue 1, 2-2 là encore.
Après avoir battu Lille
et Monaco qui est aussi dans la foulée de ce groupe-là. Donc Brest réussit bien aussi face au gros. On va d'ailleurs y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, on va réécouter ce qu'il s'est passé hier au stade Francis Leblé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, surtout en deuxième mi-temps. D'ailleurs, on écoute le résumé en musique de ce Brest-Montpellier.
En position de centre, Romain Perrault au deuxième poteau vers Mounier qui a tenté de mettre cette tête. Il l'a mise la tête, mais elle a été contrée par la défense montpelliéraine. C'est parti pour le corner, la tête, elle est captée. La tête de Mounier captée par Omli. Souquet, il dézone beaucoup Delors. Il est trouvé sur le côté droit, dit Delors, de la surface de réparation, au centre vers la bande. Et la but de Montpellier dans le temps additionnel. Le quart pourtant préféré des Brestois, et bien là qui sourit à Montpellier dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Et c'est l'ancien Brestois Gaëtan Laborde qui vient inscrire son 5ème but de la saison. Vers Romain Perrault à l'angle de la surface de réparation sur son pied droit, le centre pied droit vers Mounier, la déviation pour Philippe Poteau, la frappe et but. Romain Philippe Poteau qui marque et qui égalise pour le stade brestois son premier but sous les couleurs brestoises à Lyon, où il avait déclenché l'ouverture du score de Brest, mais c'est Lopez qui avait marqué contre son camp. Cette fois c'est bien lui, Romain Philippe Poteau, qui marque et Brest égalise devant Montpellier, un but partout à l'Ablé.
C'est logique, c'est mérité.
Perrault face à l'ancien Niortais, sent bien le centre et bon vers Cardona, la déviation, but non. Oh, juste au-dessus, c'est Pedro Mendes qui a failli marquer contre son corps. Superbe centre encore. Ferry maintenant, le centre de Ferry à Delors dans la surface, la tête de la barre. La barre pour Andy Delors et Montpellier. On l'a dit, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions, les Montpelliérains, pour faire mal. Corner pour Romain Fèvre. Dans la surface, but. Oh, c'est Brendan Chardonnay qui vient offrir l'avantage au stade brestois dans le dernier quart d'heure de ce Brest à Montpellier. Le natif de Saint-Renan, l'homme formé ici à Brest, récompensé de son premier but en Ligue 1. 2-1 pour Brest. Sur le côté droit avec Sambia, avec Delors venu décrocher, Delors face au but, Delors à 20 mètres, l'égalisation. Le ballon est rendu à Cardona qui est seul face à Hamlin et qui va marquer. Non, c'est pas possible, tout seul face à Hamlin, il tire dans le petit filet. C'est terminé, ils vont s'en mordre. entre les doigts les Brestois d'avoir manqué cette occasion par Cardona à la dernière seconde. La frappe à côté de Cardona, de partout entre Montpellier et Brest.
Ah, il avait de la place pourtant, Cardona. Ah là là.
Oui,
là,
on a revu
quelle grosse occasion pour les Brestois.
Et...
à la dernière minute comme... en plus. Hein.
Oui, ouais, dernière seconde, que... ça s'est arrêté là-dessus. Ah, ouais.
L'engagement s'est arrêté. Donc aurait été sifflé aussi sec, mais.
Voilà, il y aurait eu victoire.
Quel dommage.
De...
mais bon.
De Brest, si ce ballon était entré. En plus, Cardona, c'est pas de chance parce qu'à Lyon, déjà mercredi, il a la même occasion dans les derniers instants du match aussi pour gagner 3-2 juste après l'égalisation de Fèvre. Il y a encore là contre Montpellier. Pas de réussite pour ce coup-là. Ça va venir. Bon, c'est un joueur qui a déjà marqué cette saison.
5-6 buts, non ?
Ouais, il est à 5 buts. Ouais. J'aime beaucoup moi, parce qu'il se passe toujours quelque chose avec lui. Il y a toujours. Alors, des fois, évidemment, on peut rester sur notre faim et être déçu, mais il se passe toujours quelque chose. Chose avec ce joueur Irvine Cardona. Le Stade Brestois,
bien,
donc
on va pas se plaindre non plus. Heureusement que Brest a des joueurs comme ça. C'est globalement Brest se débrouille très bien dans ce championnat. Il n'y a pas que Cardona, mais c'est vrai que Cardona dans l'animation offensive, il en fait partie.
Avec Honora et
on félicite globalement.
Ouais, des Brestois qui auraient pu s'imposer, qui auraient pu aussi perdre le match parce qu'à un partout, il y a une barre d'Andy Delors pour Montpellier. Donc ça aurait pu complètement changer la physionomie de la fin de rencontre et l'issue de ce match.
D'ailleurs, en parlant de barre, on a vu certains tweetos sur Twitter de Brest qui sont en train d'essayer de lister tous les poteaux que Brest a concédé, tous les poteaux ou les barres. Et je crois qu'ils en sont rendus à 16. 16 ans, 16 matchs. Donc une fois par match.
Il y a un poteau de l'adversaire ou une barre.
Exactement. On se souvient à Bordeaux, un des deux poteaux touchés par Zerkan. Et hier, il y a eu la barre. À Lyon aussi.
À Lyon, il y a eu une barre et un poteau.
Brest loupe aussi des occasions immanquables quasiment.
Oui,
donc
c'est vrai.
Il y en a pour. Voilà, il y en a des deux côtés aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément le poteau ou la transversale pour Brest, mais ça passe pas loin quelquefois.
Une stat assez, assez étonnante et. Et qui pourrait modifier la suite, enfin qui aurait pu changer le cours de la saison si certains de ses buts étaient entrés.
On appelle ça la baraka.
La baraka, voilà. Et un peu de frustration aussi pour les Brestois parce de rien, il y aura peut-être pu avoir 3 points hier, même si le nul reste globalement logique. Mais il y aurait pu avoir un petit peu de mieux. Et Olivier Dalloglio l'a expliqué et s'est confié en conférence de presse après le match.
Ouais, effectivement, un peu partagé parce qu'en fait, on a déjà fait une première mi-temps où on était un peu fébrile techniquement. Et puis après, une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. Et on revient au score et on a marqué ce deuxième but aussi. Donc, je suis un peu frustré, bien sûr, par rapport à la dernière occasion. Donc la frustration, elle vient des buts que l'on a pris aussi, parce que sur les buts que l'on prend, on n'a pas été vraiment inquiété, à part sur le coup de pied arrêté, parce qu'ils sont très très bons là-dessus. Mais dès qu'on perd deux duels d'affilée, et c'est sur les deux buts en fait, on perd deux duels derrière, ça va vite quoi.
Ouais, ça va vite, surtout avec Montpellier, une machine à marquer en contre.
Oui. Oui, on l'a vu d'ailleurs sur le but d'Andy Delors, l'égalisation, un superbe mouvement. Il élimine Belkebla et Mbok avant de frapper, et tout ça en une fraction de seconde. Ça termine au fond des filets de l'Arseneur. On l'a vu aussi sur le premier but, où c'est la première fois qu'on trouvait vraiment le duo, l'association Delors-Laborde. Le centre et tout de suite la tête de Laborde. Ces deux hommes qui se trouvent les yeux fermés. Et
le deuxième but surtout est assez majestueux.
Et le deuxième but qui est splendide.
C'est typique un but d'Andy Delors.
Ah, clairement, clairement.
Il fallait vraiment une entente, il fallait vraiment qu'il y ait une bonne connivence entre les deux joueurs pour le mettre. Ce deuxième but, j'ai trouvé ça vraiment très fin.
Ouais, c'est entré au détriment des Brestois, mais vraiment.
Et puis inarrêtable, je veux dire. Un but comme ça, je pense que Paris, enfin n'importe quel club.
Ouais, parce qu'elle est très bien placée. La frappe et derrière ça fait but pour Montpellier. Des Brestois qui étaient menés, qui derrière ont mené dans le match. C'était la première fois d'ailleurs que les Brestois arrivaient à renverser une situation dans un match. Malheureusement, ils n'ont pas pu le gagner à l'arrivée, mais ça montre aussi un progrès mental du côté du Stade Brestois qui arrive à faire basculer les événements dans un match. On écoute Olivier Dalloglio qui revient sur cette progression mentalement.
Je pense que c'est des garçons qui mentalement s'accrochent, ils sont conscients de leurs possibilités et je leur ai dit aussi à la mi-temps que c'était pas la première fois qu'on était mené aussi, qu'on avait des capacités. Voilà, maintenant c'est ce qui nous permettra de grimper encore un peu plus. Moi j'ai bien aimé la deuxième mi-temps, la réaction du groupe sur la deuxième mi-temps, ça veut dire que c'est un groupe qui a du mental, qui sait s'accrocher, qui veut pas lâcher.
Ouais, la progression mentale, elle est liée aussi aux résultats, hein. Oui. De Brest, c'est depuis un mois et demi, avec les victoires contre Lille, contre Monaco, ça donne des idées à ce groupe, je pense.
Mais c'est ça, forcément, ça on se sent un petit peu poussé des ailes, quand on est capable aussi d'aller chercher un nul 2 partout à Lyon, égalisant dans les tout derniers instants.
Un des meilleurs clubs européens, quand même,
c'est
les
ça,
Lyonnais.
Ouais, ouais. Et une équipe qui finalement, de semaine en semaine, match après match, arrive à se rendre compte qu'elle peut faire mieux. On le disait que, Pierre, cette semaine, entre le match à Lyon et la réception de Montpellier, serait celle qui permettrait à Brest ou non de voir un peu plus haut que ses objectifs de début de saison. Je pense que même s'il n'y a pas eu de victoire, il y a quand même eu deux matchs nuls, deux bons matchs nuls. Je pense que Brest, effectivement, peut voir peut-être un peu plus haut maintenant.
Oui, parce que c'est très serré, d'ailleurs, dans la partie de tableau de Brest, ce petit ventre mou. Ils ne sont pas si loin que ça des 6-7 équipes qui jouent l'Europe. On va prendre jusqu'à Monaco, hein, 7e. Il n'y a que 3 points d'écart entre Brest et Monaco. Il y a un paquet d'équipes, là. Lens, Angers, Metz, Brest et Bordeaux qui se tiennent en 2 points. Nice qui est juste derrière aussi avec 21 points. Donc je pense que l'équipe qui arrivera à faire la série en gagnant déjà son dernier match de l'année. Mmh. D'ailleurs, il y aura un Lens-Brest. Donc si Brest arrive à gagner.
Et puis Nice recevra Lorient.
Oui, attention, il n'est pas joué ce match, je pense. Mais voilà, ça pourra déjà permettre de basculer et de passer les fêtes dans la première partie de tableau. Et puis, peut-être effectivement, si au début janvier ça se passe bien, eh bien de vraiment s'installer dans cette première partie de tableau. Et après, compter sur peut-être un effondrement d'un Rennes, d'un Montpellier, d'un Monaco pour pouvoir essayer de prendre cette place. Parce que la 5e place est européenne, vu qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue BKT.
Exactement.
Et la 6e sera peut-être européenne s'il y a Coupe de France, si la Coupe de France est remportée par un club qui joue la Ligue des Champions. Voilà, c'est très bien d'être à cet endroit-là avec beaucoup d'avance sur la zone rouge. Et effectivement, ils peuvent être plus gourmands parce qu'ils ont passé. On aurait quand même aimé qu'il y ait une victoire sur ces deux matchs pour vraiment basculer un petit peu plus haut.
C'est quand même le contenu des matchs. Alors à Lyon, ils ont été quand même globalement dominés, mais en faisant preuve de réaction et en se créant de grosses occasions. C'est ça aussi qui fait la force de Brest, c'est que même dans les matchs où ils sont moins bien, ils arrivent à toujours à se créer des occasions, des grosses occasions, à marquer aussi, c'est important. C'est arrivé que 2 fois cette saison qu'ils ne marquent pas, à Nîmes lors de la première journée et contre Strasbourg. Sinon, ils ont tout le temps marqué. Non, à Bordeaux aussi, 3 fois. Oui. 3 fois en 16 matchs, ils ont tout le temps marqué, sinon sur les 13 autres matchs. Donc,
et souvent 2 buts.
Et souvent 2 buts, hein, 27 buts marqués depuis le début de la saison du côté du Stade Brestois 29.
C'est ça qu'on apprécie aussi avec les Brestois, c'est qu'il y a
du jeu, du spectacle.
Même quand les Brestois ne font pas le jeu, ils arrivent quand même à créer du mouvement et à se créer des occasions et à marquer surtout, parce que c'est aussi une équipe qui sait marquer. Alors ils n'ont pas eu la chance, peut-être pas la chance, mais ils n'ont pas eu la force de Montpellier de transformer quasiment chacune des attaques en but, mais quand même ça arrive assez souvent. Brest est quand même une équipe qui réussit à concrétiser assez souvent.
Ouais, qui marque beaucoup de ces occasions. D'ailleurs, si on regarde le match à Lyon, il y a eu je crois 3-4 occasions et 2 buts à l'arrivée. Donc,
même contre Reims la semaine
même contre Reims aussi. La contrepartie de tout ça, c'est que Brest concède quand même beaucoup de buts, ça c'est
mais il y a de l'efficacité et il y a du jeu, donc voilà, c'est agréable. C'est une équipe en tout cas agréable à suivre. On est vraiment heureux cette saison de pouvoir suivre les Brestois à domicile et à l'extérieur sur Radio Bonheur,
qui ont été globalement meilleurs d'ailleurs en deuxième mi-temps hier après-midi. C'est en deuxième mi-temps qu'ils ont marqué leurs 2 buts d'ailleurs. Ça demandait une précision technique d'ailleurs tout autre, plus importante pour les Brestois, parce qu'en première période il y avait un peu trop de déchets, selon Olivier Dalloglio.
Oui, plus de fluidité, plus de précision technique aussi, parce qu'on n'a pas été toujours dans le bon tempo sur la première mi-temps. Mais on sait très bien qu'après, avec la fatigue, il y a un peu plus d'espace qui s'ouvre. Mais on a été surtout un peu plus malin, un peu plus technique aussi. Hein. On a mieux joué les coups, notamment sur les côtés. Et donc ça nous a mené beaucoup plus d'occasions, des corners, des coups francs, etc. Donc ça, c'était la clé, un petit peu ce que je demandais aux joueurs, d'être un peu plus précis.
Oui, d'être plus précis et plus juste dans la transmission. Je me souviens notamment d'une balle de Romain Fèvre en première mi-temps qui pouvait frapper, pouvait décaler, finalement essayer de décaler un joueur dans l'axe, mais il n'y avait personne. Des centres qui étaient un peu trop longs, qui ne trouvaient pas preneur, ce qui est un peu inhabituel du côté de Brest. Et des bonnes habitudes qui ont été retrouvées en deuxième mi-temps, notamment sur le but de Romain Philippotto, parce que c'est un très bon centre de Perrault. Une bonne remise aussi de Steve Mounier qui a a été très important encore dans le jeu aérien et dans le jeu de tour de contrôle devant, et qui a trouvé Romain Philippotto, qui a inscrit donc son premier but sous les couleurs de Brest dimanche, hier tout simplement. Il avait provoqué l'ouverture du score à Lyon la semaine dernière, celle de Lopez contre son camp,
mais
et là il a marqué.
Mais pas son premier but de la saison en Ligue 1.
Non, parce qu'il avait marqué contre Brest avec Nîmes lors de la première journée. Romain Philippotto qui revient sur la prise de risque des Brestois en deuxième mi-temps pour bouger cette défense à 5 de Montpellier.
Ouais, voilà, on était obligé de prendre des risques sur certains pas, certains gestes pour essayer de faire trouver des décalages, parce que voilà, défense à 5, c'est pas facile à contrer. En plus, eux, ils sont bien habitués, souvent meilleure défense, donc en plus, en étant mené au score, c'était pas chose facile. Et voilà, on a bien répondu dans le jeu, et vraiment le retour à la mi-temps, ce qu'on a fait, ce qu'on a produit pendant 20-30 minutes, c'était très intéressant pour la suite.
Ouais, il y a eu vraiment un gros temps fort très long de la part des Brestois qui, vous l'avez entendu dans le résumé, ont marqué deux fois, mais aussi on aurait pu marquer avec Cardona à la fin. On a eu une énorme occasion quand Mendes met le ballon juste au-dessus le défenseur montpelliérain, quasiment contre son camp. D'ailleurs, vous entendiez le match Pierre, et vous avez cru au but.
Bah oui, j'étais sur la route de Lorient, j'ai klaxonné, j'ai dit but, ça y est, 3-2.
Ouais. Bah non, on y a tous cru.
Mais c'est vrai que quand on regarde la vidéo, on a l'impression que ça vient fouetter le filet.
Et finalement,
quel dommage.
T'es pas loin. Mais les Brestois continuent leur petit bonhomme de chemin. 23 points, désormais 11e place dans ce championnat de Ligue 1. Et donc arrivent à enchaîner, ou en tout cas à prendre quelques points face aux grosses équipes, aux grosses cylindrées. On a dit Lyon, on a dit Lille, on a dit Montpellier. Et hier, Romain Philippotto et Olivier Dalloglio reviennent sur cette chasse aux grosses points face aux grosses cylindrées de Ligue 1.
Oui, non, j'ai pas le son pour...
Ah, c'était le son numéro 6.
Oui, d'accord.
Peut-être pas.
Bah, on va le récupérer, oui, ça y est. On va le récupérer, voilà.
Bah, quand on voit Lyon, hein, ce qu'ils font actuellement, d'avoir fait 2-2 là-bas, c'est super. Là aussi, Montpellier, on savait que c'était très performant à l'extérieur. Donc, non, c'est bien, on répond bien face aux grosses équipes.
Ah oui, c'est sûr que sur les équipes de notre niveau, il faut qu'on arrive à les battre, notamment à la maison. Ça, c'est important. Et c'est des matchs difficiles. Hein. On l'a vu contre Reims, c'est très compliqué. Mais après, il y a des matchs contre Lille, contre Montpellier, qui sont des gros calibres. Il faut qu'on soit à la hauteur aussi. Ouais. C'est sûr que. Et pour être à la hauteur, voilà, il faut qu'on soit conscient de nos capacités. Voilà, il ne faut pas qu'on se sous-estime. Je pense que les joueurs ont passé un cap là-dessus aussi, au niveau mental. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils peuvent bouger pas mal d'équipes, à condition de rester dans ce collectif.
Ah, il a insisté, Olivier Dalloglio, sur ce côté mental de son équipe, qui avait tendance, parfois, quand elle concédait un but cette saison, tu peux plonger dans ces matchs. On se souvient du match à Nîmes lors de la première journée contre Marseille. Il y avait eu une réaction, mais à chaque fois il y avait quasiment deux buts d'écart presque tout le long du match, contre Strasbourg aussi, et là c'est pas le cas.
Ouais, début de championnat, on s'en souvient quand même, compliqué, hein,
ça avait été difficile, hein,
pour Brest, le début de
défaite, de victoire,
on a vite oublié, mais Brest a eu du mal dans ce début de championnat. Alors, il y avait des adversaires aussi difficiles pour Brest pour démarrer ce championnat, mais on oublie aujourd'hui que Brest était dans le dur dans les premières semaines.
Ce qui a fait la force des Brestois, c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup de matchs nuls. Quand ils ne perdaient pas, ils gagnaient. Donc ils ont tout de suite avancé dans ce championnat, 3-3, hein, avec
je pense
des victoires.
Aussi que le match contre Marseille, il a été important. Alors il faudrait peut-être leur demander, mais je pense que ils avaient perdu contre Marseille, mais ils avaient fait vraiment un bon match.
Oui.
Et ça permet de pas trop douter dans une saison. C'est vrai, alors peut-être aussi il y a la magie du calendrier qui leur a offert la possibilité de jouer un Dijon complètement à la ramasse en début de saison. Brest qui avait outrageusement dominé les Dijonais, mais voilà, c'est mérité d'être là au classement. Je pense même que voilà, peut-être un ou deux petits points de plus qui pourraient permettre aux Brestois d'être un peu
plus haut. On pense au match à Angers, où ils auraient dû au moins ramener un match nul,
oui,
par exemple.
Pour y avoir été, ouais, c'est vraiment, ils auraient même dû gagner ce match.
À côté de ça, le match à Lyon, ils l'auraient perdu, ça aurait pas été tout à fait illogique.
Allez,
non,
ça
plus,
s'équilibre,
donc, bon,
je veux bien.
Sur une saison, on pense que ça casse s'équilibre quand même dans ce championnat de Ligue 1. Un écran publicitaire, et puis on va parler là d'un club où...
Juste un petit mot sur Brest pour finir. Le prochain match des Brestois,
ce sera mercredi soir.
Ce sera dans deux jours. Hein.
À Lens.
Match à Lens, déplacement au Racing Club de Lens pour les Brestois. Nous y serons avec Radio Bonheur. Match à 19h mercredi 23 en direct en intégralité sur Radio Bonheur. À tout de suite.
Si tu pars après le boulot, tu vas encore rater la bûche comme l'année dernière.
Ah non, cette année j'ai tout prévu.
T'as posé ton après-midi ?
J'ai fait mieux.
T'as posé ta journée ?
J'ai fait encore mieux.
T'as pas quitté ton boulot pour être à l'heure au réveillon quand même ?
Mais non, j'ai pris un abonnement télépéage Ulysse. D'ailleurs, tu devrais te dépêcher d'en prendre un. Si tu le commandes maintenant, il arrivera avant les fêtes.
Offre valable pour toute commande passée avant le 22 décembre 2020, voire conditions d'abonnement sur ulysse.com. Ulysse, comment roulait-on avant ? Ulysse by Vinci Autoroute.
J'aime quand l'heure du dessert a sonné et que ça les fait rêver. J'aime quand ça fond, quand ça croustille, quand c'est fruité, chocolaté ou caramélisé et que leurs yeux pétillent à chaque bouchée. Vous aussi, passez un beau Noël grâce à Picard et faites-vous plaisir avec notre collection de 16 bûches glacées et pâtissières à partir de 8,95€. À retrouver en magasin et sur picard.fr. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Pour votre santé, bougez plus.
Le grand loto de Noël ? Écoutez, mon petit Bernard, à mon époque, on disait toujours qu'il fallait se contenter de peu.
Bah, c'est 15 millions quand même, hein ?
Ah, vous savez, on disait beaucoup de bêtises à mon époque.
Et vous, ça vous dirait quelques millions ? Vendredi 25 décembre, grand loto de Noël de 15 millions d'euros minimum et 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort, voire règlement.
FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
EDF présente le Noël de Sophia.
Cette année, pour Sophia, Noël sera encore plus vert ou ne sera pas. Alors, vert le sapin vert, évidemment, verte la nappe, verte les assiettes, mais surtout, verte l'électricité qui est moins chère le week-end avec EDF.
Pour Noël, offrez-vous des économies avec Vert électrique week-end d'EDF. L'électricité verte à prix avantageux en déplaçant vos consommations les samedis, dimanches et jours fériés. Rendez-vous sur edf.fr/vert-électrique ou au 3004. Service et appel gratuit. Offre à prix de marché pour les logements équipés d'un compteur communicant. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En route pour la sécurité avec GMF. Le danger commence là où la visibilité s'arrête. Alors en trottinette ou à vélo, la nuit ou par temps de pluie, portez un vêtement réfléchissant et allumez vos phares. GMF, sur la route aussi, soyons assurément humains. GMF, premier assureur des agents du service public.
Et si la carte cadeau Zalando était le plus beau des cadeaux ?
Alors, les guirlandes, ok, le sapin, ok. Et en plus, cette année, je sais comment faire plaisir. La carte cadeau Zalando.
En panne d'idées pour Noël ? Un cadeau de dernière minute ?
Laissez vos proches et tous ceux que vous aimez choisir en leur offrant une carte cadeau Zalando.
Détails de l'offre sur zalando.fr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Savez-vous qu'un bijou en or du manège à bijoux est toujours en or 18 carats 750 millième et toujours vendu à prix Leclerc ? Et ça, c'est rarement le cas ailleurs. Alors si à Noël, vous voulez offrir un bijou en or 18 carats 750 millième vraiment pas cher, vous savez où le trouver. Pour exemple, le pendentif diamant 0,01 carat or jaune 0,36 grammes est à 49 euros seulement. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième.
Le 21 décembre, retrouvez-moi sur Canal+, pour une soirée vraiment...
Est-ce que quelqu'un a vu ma scie ?
S'il vous plaît, les amis, je suis en train d'enregistrer une pub pour Canal+. Bon, on est encore en chantier, mais quoi qu'il arrive, le show de Noël must go on.
C'est Strass, Payette et Manu Payette sur Canal+. Vivez le show de Noël must go on, présenté par Manu Payette, avec Jérôme Niel, Louane, Benjamin Laverne, Hervé, Juju Fitcat, Céline Salet et Alice Belaïdi. À retrouver ce soir, seulement sur Canal+.
Jusqu'à demain, chez Auchan, les crevettes entières cuites réfrigérées sont à 8,50€ le kilo et vendues en barquette d'un kilo, soit environ 30 à 40 pièces. 8,50€ le kilo pour des crevettes, il y a déjà de quoi se régaler.
Ah, les bons plans qui font la différence. Auchan.
Pardon, c'est encore moi. Les crevettes sont élevées en Équateur ou en Colombie, gros calibre. L'offre est valable dans vos magasins et drive Auchan participants.
Pour votre santé, bougez plus. Jusqu'au 31 décembre, vos hypermarchés et drive sont ouverts dès 7h30 du lundi au samedi.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9. Mado et Benny Guette, les déchaînés du football, 19h27, presque 28, on est ensemble jusqu'à 20h30. Après Brest, on parle du FCL, du football club de Lorient avec vous. Pierre, vous y étiez hier à Lorient pour ce match entre Lorient et Rennes, un match difficile avec aussi un environnement, avec un drame qui s'est déroulé juste après ce match.
Oui, le football qui est très très vite passé au second plan hier soir au stade du Moustoir. Et ça s'est passé très très vite après le match. C'était une dizaine de minutes seulement après le coup de sifflet final. Alors les joueurs avaient quitté le terrain, certains allaient en conférence de presse, certains de mes collègues y sont allés aussi. J'étais encore en train de ranger mon matériel. On a assisté à cette scène absolument tragique qui a coûté la vie à Johan Essirard, qui était un jardinier bénévole du FC Lorient. Pour vous raconter la scène, donc le terrain était déserté. Les joueurs de Rennes, certains joueurs de Rennes sont revenus pour faire un décrassage d'après-match. Vu qu'il y a beaucoup de matchs rapprochés, eh bien ils ont fait une petite séance d'entraînement. Il y avait Dalbert, il y avait Mbanyang aussi de mémoire qui était là. Et puis il y a 6 jardiniers qui sont arrivés du poteau de corner à côté du parcage visiteur. Ils ont descendu 3 rampes de luminothérapie. C'est une technologie
pour la pelouse, hein, pour
qui
la pelouse,
permet de chauffer la pelouse, parce qu'il y a quelques endroits peut-être un petit peu plus compliqués, et c'est ce qui est fait dans beaucoup beaucoup de stades en France.
Alors, ce sont des grandes rampes, hein, comme des portiques, ce sont des portiques qui se déplient, et puis de chaque côté on a deux mâts avec des roues qui permettent de déplacer ces portiques. Il y avait 3 grandes rampes comme ça sur la pelouse.
Et deux fois trois des équipes de deux en fait.
Deux par rampe, 2 jardiniers par rampe.
Et ils amenaient ça avec des roues, et en fait ils ont traversé tout le terrain pour aller à la surface de réparation qui est à droite quand vous regardez les images à la télévision, donc juste devant la tribune de presse. Et puis on sait pas comment, moi j'ai pas vu la scène parce que j'étais de dos en fait, j'étais en train de fermer ma valise avec tout le matériel Radio Bonheur, et on a entendu un bruit qui résonne encore dans ma tête et je pense dans la tête de tous ceux qui ont assisté à cette scène, un bruit terrible, lourd, mais de cet immense matériel qui est tombé. Et malheureusement, Johan Essirard était en dessous. Très rapidement, ses 5 collègues se sont précipités pour soulever. Et c'est immensément lourd. Ils ont essayé de soulever pour essayer de l'extraire. Ouais. Les joueurs rennais, je trouve qu'ils ont fait preuve d'une bravoure infinie. Je me souviens encore de Dalbert qui a traversé le terrain, mais le sprint de sa vie, parce qu'ils étaient à l'autre bout du terrain, il a traversé pour essayer d'aider tous ceux qui étaient là. Il y a même des techniciens de télévision, tous ceux qui étaient autour du terrain se sont regroupés pour venir en aide. Ça a duré très peu de temps, mais les signaux n'étaient pas bons dès le départ, parce que on voyait les joueurs rennais qui arrivaient, qui marquaient un temps d'arrêt et qui étaient complètement abasourdi. Il y a certains membres du staff qui les prenaient dans les bras, mais vraiment très très touchés tout de suite, les joueurs de Rennes, les jardiniers aussi, les secouristes sont venus très très vite, les médecins des deux équipes aussi ont couru très vite parce que la nouvelle s'est répandue. Il n'y a pas de bruit en plus dans un stade à huis clos, donc je pense que tout le monde a entendu ce qui s'est passé, les cris sur le terrain. Les pompiers sont arrivés, allez, une grosse dizaine
mais
de minutes.
Mais c'était trop tard.
Ouais. Hélas, il y a eu de longues, longues minutes de tentatives de réanimation, de massage cardiaque, mais effectivement, c'était trop tard. Johan Essirard qui est malheureusement décédé au moment d'arriver à un hôpital qui était tout proche. Donc, effectivement. Effectivement, il y a une grosse inquiétude d'abord. Je dois m'excuser auprès de nos auditeurs parce que je devais faire le débrief et j'avais absolument pas le cœur à ça. Ayant assisté à ça, on a j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer, et voilà, c'était vraiment très très choquant. Et on pense évidemment à toute la famille de Johan Essirard, à ses proches, son frère qui était là aider aussi les jardiniers.
38 ans et papa de 3 jeunes enfants.
Exactement, et il y aura des hommages qui seront rendus. Les joueurs de Lorient ont fait une minute de silence aujourd'hui à l'entraînement.
Les joueurs et les salariés
évidemment.
Tout le monde au sein du club.
Tous ont formé un cercle ce matin avant l'entraînement. Il y aura aussi les joueurs de Brest qui porteront un t-shirt hommage mercredi avant le match à Lens. Donc effectivement, voilà, ça a été une ambiance très pesante à Lorient, où le football est très vite passé au second plan. Et là maintenant, évidemment, il y aura une enquête pour savoir comment ça a pu tomber. La pelouse était mouillée, peut-être que ça a glissé. Moi, je n'ai pas vu, donc je vais m'abstenir de tout commentaire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a essayé tout de suite d'aider. En appelant les pompiers, en essayant d'extraire.
C'est probablement une défaillance mécanique.
L'enquête le dira, mais en tout cas, on est très très triste aujourd'hui, évidemment, et on pense très fort aux proches de ce jeune homme. On va essayer quand même de parler football. Oui. Parce que, alors, même si ça va mal pour Lorient, c'est quand même aussi en 2020 ce qui nous a sorti un peu de ce marasme ambiant. On va revenir en musique sur ce qui s'est passé lors de ce derby contre Rennes. Victoire 3-0 de l'équipe de Julien Stéphan. Voici le résumé de ce match dans les conditions du direct sur Radio Bonheur. Avec Doku, attention, il y a un petit peu d'espace pour pouvoir prendre de la vitesse. Doku sur le côté, il efface le Goff, le centre, second poteau, Inou qui est seul et qui tire juste à côté de la tête. Gros frisson sur cette situation, le centre là de Doku.
Ah oui, c'était chaud. Hein. Oh, c'était chaud.
Pour Inou, et ça touche le poteau, hein. Ça touche la base du poteau. Bourigeau, oh, le coup franc qui plonge bien, Nzonzi est là, Da Silva en très bonne position et l'ouverture du score, l'ouverture du score pour cette équipe du Stade Rennais. Elle est signée Damien Da Silva qui a été au rebond offensif de ce coup franc qui a été touché, freiné par Nzonzi. Il était tout seul, Da Silva, au point de pénalty. Il a frappé ce ballon en demi-volée, ça a été touché par Jérémy Morel et c'est ce contre qui prend un peu à contre-pied.
Elle est touchée, j'ai l'impression. Elle est déviée, hein. Elle est déviée, sa frappe, non ?
Oui, par Morel.
Morel.
Et que, attention à ce centre encore avec Wissam dessus ! Oh, voilà l'énorme occasion pour les Lorientais. Ça passe par les côtés dans cette première période. On a beaucoup vu le Goff et là, c'est venu de la droite avec ce centre de Lefay, me semble-t-il. Wissa qui était monté.
Il manque pas grand-chose.
Très
ah ouais,
haut.
C'est dommage.
Un petit peu quand même.
Ouais, ça là, il a fait un soleil là au niveau des cieux. Il y a un mouvement intéressant à jouer sur le côté droit pour les Rennais avec Doku qui est maintenant servi. Jérémy Doku qui essaye de passer sur le côté, il met le Goff au sol. Doku qui reste debout et qui va percuter encore, ça va très vite. Doku qui centre en retrait, c'est magnifique, frappe de Bourigeau, 2-0, c'est une action magnifique sur le côté droit. Ils avaient de l'espace pour pouvoir la jouer. Bourigeau, Doku, à toi, à moi, à toi, 2-0, but somptueux des Rennais qui enterrent peut-être des définitivement
là,
les espoirs l'orienter. Allez, Grenier, à l'extérieur du pied pour Terrier. Attention, là, il y a un énorme décalage pour Unou. Terrier qui est dans la surface et but. Et but, les deux remplaçants Rennais qui ont fait la différence. Grenier qui a magnifiquement décalé Terrier sur le côté. Il aurait pu la donner à Adrien Unou. Non, on a senti très vite qu'il voulait y aller seul, tout seul. Crochet extérieur, frappe enroulée dans le petit filet. C'est très, très, très dur pour Lorient.
Là, ça mentalement, fait 3-0 pour eux. C'est fini.
Ça ne sort pas des limites du terrain, c'est Boigard qui touche le dernier ballon de ce match remporté par le Stade Rennais. 3-0, la légère embellie entrevue grâce à la victoire 3-0 contre Nîmes, puis un bon match au Parc des Princes, s'est effondré. Hélas, on espérait un sursaut de Lorient après la victoire mais capitale que vous aviez commentée, Gaëtan, contre Nîmes. Et là, c'est vrai que c'est une rechute assez sévère pour les Lorientais parce que, vous l'avez entendu dans le résumé, il n'y a quasiment que des occasions pour Rennes dans ce match. Rennes qui a été quand même efficace parce qu'ils ont marqué sur leurs trois premiers tirs cadrés de la rencontre. La fin de match à 3-0 était un petit peu faux-folle. Il y a eu des situations des deux côtés. Mais Gaëtan, malheureusement, Lorient n'a pas réussi à surfer sur une petite vague positive qui commençait à se dessiner.
Oui, puis qui avait été suivi d'un bon match à Paris. Même si c'était un Paris remanié, ça restait quand même Paris avec des joueurs intrinsèquement meilleurs, hein, faut le dire, d'une manière générale. Mais n'ont pas réussi à confirmer ça, les Merlus, dans la foulée face au Stade Rennais, avec une défaite qui arrive. En plus, on a l'impression qu'on a retrouvé Lorient d'il y a 3 semaines. S'il y avait eu une défaite comme contre Paris, j'ai envie de dire, avec le même contenu, ça aurait été différent, mais là on a l'impression d'avoir retrouvé le Lorient qui ne marquait plus, qui était en grande difficulté offensive, qu'on avait trouvé contre Montpellier par exemple aussi. C'était très difficile. Bon, il va falloir vite rectifier le tir à Nice cette semaine. On le disait, il fallait après Nîmes, il fallait gagner au moins un des trois matchs qui venaient, en sachant que Paris c'était très délicat d'aller chercher quelque chose.
Ils auraient peut-être pu le faire.
Et qu'il fallait faire quelque chose au moins sur Rennes ou Nice. Bon, ben maintenant Rennes c'est perdu. Nice, il faut le gagner. Il n'y a plus le choix pour être au moins, ben, pour être à 14 points hein, dans ce championnat en 17 matchs.
Ouais. Bon, et avec encore, c'est Pauline Guerguil qui commentait le match avec nous, que vous avez entendu dans le résumé tout de suite, qui nous disait ça ressemble à beaucoup de matchs qu'on en a vu à Lorient cette saison. Un premier quart d'heure qui n'est pas mauvais, où Lorient est là dans les duels, mais où Rennes a très vite pris l'avantage au bout d'un quart d'heure. Il y a eu cette domination totale. C'est ce qu'on a déjà vu, Gaëtan, cette saison avec les Merlus.
Oui, parce qu'il y a eu des. Ben, je pense au match à Angers où, pareil, très vite, l'adversaire marque alors que Lorient n'était pas forcément mal entré dans son match. Il y avait eu d'autres rencontres comme celle-là aussi. Je pense au match contre Marseille où l'entame n'est pas forcément très mauvaise, mais derrière Marseille prend le dessus. Et puis en deuxième mi-temps, il marque. Voilà, les entames ne sont pas forcément très mauvaises, mais elles ne sont pas non plus très franches en termes d'occasion ou de pression sur l'adversaire. Pas en tout cas assez pour peut-être prendre les devants rapidement, comme ils l'ont fait contre Nîmes la semaine dernière, les Lorientais, comme ils auraient pu le faire à Paris aussi avec des grosses occasions d'entrée. C'est peut-être les débuts de match qu'il va falloir modifier pour se mettre sur les bons rails tout de suite, parce qu'ils en auraient la possibilité et ils se faciliteraient la tâche, les Merlus.
Allez, une petite page de réclame et on reparle malheureusement de cette situation inquiétante au classement pour Lorient.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Vous pouvez écouter Radio Bonheur en DAB+ à Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon et Paris-Île-de-France.
Écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur, 19h41. Lorient est dans le dur au classement. Une victoire suivie de deux défaites, malheureusement, à Paris et à domicile, là, contre Rennes. Lorient n'arrive pas à relever la tête.
Ah, et puis Lorient n'a marqué que 3 buts sur ses 9 derniers matchs, tous contre Nîmes.
Oui, à part cette éclaircie momentanée contre Nîmes avec 3-0 à domicile, on le rappelle, avant cette victoire, Lorient était sur plus de 500, presque 600 minutes sans marquer un seul but. Ouais. On parle même pas de victoire, là, on parle juste de marquer un but. Et on a l'impression que depuis ce match contre Nîmes, on est revenu un peu à la même situation, c'est-à-dire avec une immense difficulté pour marquer.
Et puis ça se ressent aussi dans les statistiques au-delà de ça. Hein. Quand on regarde le classement des passes par match, c'est Lorient qui ferme la marche, le moins de passes par match, le moins de passes réussies par match, et ils sont 18e en termes de tirs tentés par rencontre. Moins de 10 en moyenne pour les Lorientais. Hier c'était 11, donc juste au-dessus, mais deux petits tirs cadrés. Et encore dans les deux tirs cadrés, il y a une frappe malheureusement insignifiante d'Amel qui est complètement écrasé et qui arrive à deux à l'heure sur Romain Salin. Donc on sent que ça doute, on sent que c'est une équipe qui n'arrive pas à avoir l'efficacité qu'elle avait connue l'an passé. Souvenez-vous, elle marquait tout le temps, ou quasiment tout le temps sur
sa première occasion. Ouais, c'est vrai.
Il y a moins de fraîcheur mentale, je pense, dans cette équipe. C'est forcément plus dur quand les résultats ne sont pas là. Et voilà, quand on regarde le classement, Lorient est avant-dernier de ce championnat. Et ça commence un petit peu à s'échapper devant. On voit Reims qui a 14 points, Strasbourg 14, même s'ils ont perdu hier. Nîmes aussi qui a pris un point à Saint-Etienne, pas évident. Il y a toujours Dijon qui est le dernier de la classe avec 9 points. Mais c'est une situation assez inquiétante. Écoutez la réaction hier après le match au micro de Philippe Carayon sur Canal+, de Jonathan Delaplace.
Bon, de l'inquiétude, forcément, au vu du classement. Après, ce soir, je pense que on avait la possibilité de revenir, surtout en début de deuxième mi-temps. On a pressé, on n'a pas su mettre ce but. Et derrière, on sait que la qualité offensive de Rennes, bah, on l'a payé cash. Hein. Voilà, donc ça ne pardonne pas.
En termes de confiance, à part s'accrocher, de toute façon, il ne s'agit pas de lâcher mentalement, surtout pas.
Non, surtout pas. Après, je ne pense pas qu'on ait lâché ce soir. Je pense que Rennes est une grosse équipe, on est tombé sur une belle équipe. Et, on est tombé sur plus fort que nous ce soir, c'est tout.
Mais le problème, c'est que ça arrive souvent.
Bah, quand vous êtes 19e, c'est ce qu'on je me rappelle, on disait ça avec Guingamp quand ils étaient derniers de Ligue 1. On dit bah on tombe tout le temps contre une équipe supposée meilleure. Là oui, mais Rennes c'est quand même une équipe alors Ligue des Champions, je sais pas, parce qu'ils ont pas franchement été au niveau de la Ligue des Champions cette saison, mais c'est une équipe européenne. C'est une équipe européenne qui va jouer l'Europe, qui joue l'Europe, qui a eu vraiment, vraiment du mal à digérer la transition Ligue 1, Ligue des Champions. Ça s'est ressenti en Ligue des Champions avec un seul point. Ça s'est ressenti en championnat aussi parce que avant cette série de 3 victoires consécutives, ils n'avaient gagné qu'une fois sur les 13 matchs précédents. Ouais. Donc voilà, ils ont réussi à digérer tout ça. Il y a eu un stage à Marbella en Espagne pour les Rennais qui leur fait le plus grand bien. Parce que je crois, alors je sais plus s'ils sont partis après Nice ou avant
juste
Nice.
Avant Nice.
Juste avant Nice. Ouais. Bah, ils sont partis en Espagne et depuis.
Mais ça va mieux. Ça va mieux. Ouais.
Si les Lorientais nous écoutent, si à Guingamp, si on nous écoute, prenez vos dispositions. Non, mais voilà, ça a ressoudé cette équipe. Et puis on voit des joueurs aussi, des individualités. On voit un Doku qui a fait un super match hier et qui est impliqué notamment sur le deuxième but de Bourigeaud. On voit des rentrants, des entrants aussi qui ont apporté. Grenier qui a été passeur pour Terrier dans le dernier quart d'heure. Si je parle des Rennais, c'est que, à contrario, Gaëtan, individuellement, collectivement, on ne peut pas se ressortir beaucoup de l'orienté dans cette première partie de saison. Peut-être Wissa, qui a bien réussi, Wissa, on va dire, la MU, Ligue 2, Ligue 1.
Oui, je dirais peut-être Gravillon avec lui, qui s'est bien adapté, qui a apporté un certain équilibre, en tout cas sur un temps. Ça a été moins le cas par la suite. Et bon, malheureusement, il n'était pas là hier suite à son expulsion contre le PSG. Mais c'est quasiment tout. C'est vrai que peut-être Abergel allait à la rigueur, qui est l'un des plus constants aussi, qui d'ailleurs a le brassard de capitaine maintenant régulièrement. Mais derrière, il y a eu souvent beaucoup trop d'erreurs d'une manière générale. Devant, le poids n'est pas suffisant. Il y a un manque d'équilibre aussi avec le milieu de terrain par moment. On le voit là, il y a quand même 3 buts encaissés. 2 à Paris, bon, ça reste Paris en face. Mais sur les autres matchs, pareil, il y a eu quand même eu beaucoup de buts encaissés. On est à 29 côté l'Orienté en 16 matchs, donc c'est pas loin de 2 par match.
19e défense de Ligue 1.
19e défense. Donc,
avec Brest. Tiens.
Avec Brest. C'est une équipe qui n'a pas pour l'instant trouvé ses points forts cette saison, qui les a retrouvés par séquence avec Johan Wissa dont on parlait et parfois avec Abergel, mais d'une manière générale ses points forts sont trop esselés et pas forcément réguliers non plus, parce que Wissa, on se rappelle qu'il y a quand même eu un sacré trou aussi entre on va dire la 9e et la 14-15e journée. Donc
c'est quand même une petite déception globalement Wissa dans ce club.
Ça reste le meilleur buteur, il est à 5 buts.
On espérait mieux, mais on espérait
cette
mieux
saison.
Ouais.
Garbage, on espérait mieux parce qu'il avait mis 15 buts l'année dernière, mais on espérait surtout mieux, parce que Wissa, je trouve qu'encore ça va, on espérait surtout mieux de Mofi et Garbic.
Ouais.
Deux recrues qui ont été payés en plus très cher, qui pour
18 millions à eux deux.
Hein. Ouais, qui n'apportent absolument pas satisfaction pour l'instant, parce que le rendement n'est pas là. 3 buts, à eux deux. Un pour Mofi, deux pour Gurbic, dont un sur penalty.
Il n'y a plus beaucoup de buteurs du tout, quel qu'il soit, à Lorient, puisqu'on ne marque plus quasiment.
Ils ne marquent plus ou très peu. Et ouais. puis,
et puis c'est surtout les occasions. Hier, c'est ce qu'on dit régulièrement. Quand une équipe ne marque pas, il faut regarder si elle se procure des occasions ou pas. Et là, malheureusement, en tout cas, sur ce match contre Rennes. Ouais. Il n'y en a pas eu.
Non. Ouais. Il y avait eu sur les premiers matchs où Lorient ne marquait pas. Il y avait des occasions contre Dijon, Lorient, Nantes, Marseille.
Non, restez confiant au départ. De championnat, malgré un début compliqué.
Général, les recrues ne pèsent peut-être pas pour l'instant assez, sont peut-être pas assez. Alors, c'est pas intégré, c'est pas forcément le mot, mais n'ont peut-être pas suffisamment trouvé leur tempo.
Ouais. Il est temps parce qu'on arrive au milieu de ce championnat, si la trêve est un peu décalée cette année, il manquera deux matchs avant d'arriver à la 19e
mais
journée.
Mais n'empêche, ouais.
Mais 19e, forcément, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant pour cette équipe de Lorient. Lorient qui se déplacera à Nice, qui est dans le ventre mou, 13e, mais bon, 21 points. Voilà, à l'abri quand même de
du bas du
classement. Des
Niçois qui avaient bien démarré et puis qui sont un petit coup beaucoup de moins bien maintenant, alors qu'ils ont gagné à Nîmes la semaine dernière, mais qui ont reperdu ce week-end contre Lyon, qui avaient fait match nul aussi à Reims.
Alors c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être l'occasion, parce que c'est pas...
Moi je le crois. Les Niçois qui n'auront pas leur meilleur buteur d'ailleurs. Amine Gouiri sera suspendu pour ce match contre Lorient.
C'est un signe.
Donc ça peut être un sacré arme.
Énormément perdu avec la blessure de Dante.
Oui.
À Angers, la courbe des résultats est effrayante depuis que Dante s'est blessé.
Faut en profiter.
19h48, on va parler de meilleures nouvelles dans quelques instants sur Radio Bonheur, puisque Christophe Kerbrat sera avec nous, le défenseur du Stade Briochin, club de National.
Ouais, une petite pause juste auparavant. Je vous rappelle les deux matchs de Ligue 1 que vous pourrez suivre sur Radio Bonheur dès mercredi, hein, parce qu'on l'a pas dit, mais le prochain match des Merlus, ça sera aussi mercredi soir avec un duplex. Nous aurons deux matchs en simultané à 19h, prise d'antenne aux alentours de 18h30. Lens contre Brest et Nice contre Lorient, ça va venir vite, c'est pas demain soir, mais après demain soir, en direct sur Radio Bonheur, en direct de Lens et de Nice. On se retrouve tout de suite.
Jusqu'au 31 décembre, chez Auchan, le chapon fermier liré label rouge et filière responsable Auchan est à 9,50€ le kilo. De quoi se régaler à 6 ou 8, soutenir les éleveurs français et cagnoter 6€ sur la carte Waouh Auchan. 9,50€ le kilo ? Moi je dis ça vaut le coup.
Les bons plans qui font la différence. Auchan.
Chapon blanc ou jaune élevé en plein air, origine France, offre valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Jusqu'au 31 décembre, vos hypermarchés et drive sont ouverts dès 7h30 du lundi au samedi.
Le grand loto de Noël ? Écoutez, mon petit Bernard, à mon époque, on disait toujours qu'il fallait se contenter de peu.
Bah, c'est 15 millions quand même, hein ?
Ah, vous savez, on disait beaucoup de bêtises à mon époque.
Et vous, ça vous dirait quelques millions ? Vendredi 25 décembre, grand loto de Noël de 15 millions d'euros minimum et 100 gagnants à 20 000€ tirés au sort, voire règlement.
FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.
Ah, ça y est, je suis trop contente, j'ai fini mes cadeaux.
Quoi ? Oh, moi, j'ai pas celui de mon fils ni celui de mon mari.
Tu veux un vrai conseil d'amis ?
Oh oui,
va chez Intersport.
Mais bien sûr !
Ce sont les derniers jours avant Noël. Rendez-vous chez Intersport. Jusqu'au 24 décembre, une sélection de cadeaux de dernière minute et des promos sport, lifestyle ou sportswear vous attendent. Intersport. Voir conditions et magasins participants sur intersport.fr. Commandez en ligne via le click and collect ou le drive pour vos achats de dernière minute.
Avec l'appli Les Indés Radio, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, écoutez nos radios et web radios en direct. Désormais, en plus de vos musiques préférées, retrouvez tous les podcasts de vos radios dans notre appli. Déjà 2,5 millions de téléchargements. L'appli Les Indés Radio, la bonne idée radio.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Savez-vous qu'un bijou en or du manège à bijoux est toujours en or 18 carats 750 millième et toujours vendu à prix Leclerc ? Et ça, c'est rarement le cas ailleurs. Alors si à Noël, vous voulez offrir un bijou en or 18 carats 750 millième vraiment pas cher, vous savez où le trouver. Pour exemple, le pendentif diamant 0,01 carat or jaune 0,36 grammes est à 49€ seulement. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième.
J'aime quand le réveillon débute enfin et que l'apéritif est servi. J'aime quand il y en a pour tous les goûts et que la surprise est au rendez-vous. J'aime quand c'est croquant, crémeux, moelleux, iodé et que la magie opère à chaque bouchée. Vous aussi, passez un beau Noël grâce à Picard et faites-vous plaisir avec notre collection de bouchées apéritives en édition limitée. À retrouver en magasin et sur picard.fr. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Des promotions exceptionnelles à la Grande Récré. Le super véhicule radiocommandé Rallye Eliminator est à 14,90€ seulement. La Grande Récré, élue meilleure chaîne de magasins de jouets de l'année. Offre valable jusqu'au 24 décembre 2020, échelle 1/16, pile non incluse. Magasins participants sur lagrande-recré.fr. La Grande
Récré. Leclerc.
Vous pouvez compter sur nous pour préparer les fêtes et vous proposer des cadeaux de qualité à prix Leclerc.
Et pour les fans de chocolat praliné, du 22 au 31 décembre chez Leclerc, pour l'achat de deux boîtes d'escargots cœur praliné au lait de Lanvin de 164 grammes chacun, variété au choix, la troisième est offerte. Une pour vous et deux pour vos proches, ou l'inverse. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Allez, le magazine des déchaînés du football avant de parler de Guingamp et de la Ligue 2. Un petit mot sur le championnat de 3e division, sur le championnat de national, messieurs.
Oui, avec un week-end de match nul, je crois, mon petit Gaëtan.
Exactement, puisque Concarneau a été partagé les points à Créteil, un but partout malgré l'ouverture du score d'Hassen Benali. Puis Saint-Brieuc, de son côté, a fait match nul aussi. Saint-Brieuc qui menait également à domicile contre Bourg-en-Bresse-Perona après l'ouverture du score de Valentin Lavigne. Mais les Bressans ont égalisé ensuite par Guillaume Cousse en deuxième période.
Et nous avons, pour parler de cette rencontre, le plaisir encore une fois d'accueillir Christophe Carbrad. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Bonsoir.
Une réaction, Christophe, après ce match nul, vous meniez au score, vous avez été rejoint. Quel est le sentiment qui prédomine à J+3 maintenant?
Bah, ça reste une déception, surtout avant la trêve, de ne pas avoir pris les 3 points. D'autant plus qu'on a fait une très grosse première mi-temps. Après, malheureusement, on est rentré au vestiaire, il n'y avait qu'un but d'écart et il y aurait pu en avoir 2 ou 3. Et on sait que dans ces cas-là, c'est toujours difficile de maintenir un score. Et voilà, en deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils n'ont pas eu d'occasion, on n'en a pas eu beaucoup non plus. Mais voilà, on prend un pénalty un peu bête. Et donc, on fait ce score de 1 partout.
Alors là, vous arrivez quasiment à mi-parcours dans ce championnat de national. Saint-Brieuc est 9e, pile au milieu d'ailleurs aussi de ce championnat de national. 21 points, à 8 points du Red Star, 3e, à 4 points de Boulogne-sur-Mer, le premier relégable de ce championnat. Quel premier bilan pouvez-vous tirer de cette moitié de saison, Christophe?
Bah, je pense que pour un promu, c'est un bilan très positif de te retrouver là au milieu du classement. Après, c'est serré devant et derrière, donc voilà, va falloir quand même prendre des points, mais ça reste, je pense, très positif.
Alors Christophe, ce championnat national que vous avez connu il y a 10 ans, en quoi il a évolué, changé maintenant que vous l'avez retrouvé depuis quelques semaines? Qu'est-ce qui est différent par rapport à votre passage en national avec Plabennec?
Je pense qu'il y a beaucoup plus de clubs structurés du style un peu professionnel. Après, nous, quand j'étais avec Plabennec il y a une dizaine d'années, on avait toujours 2-3 équipes qui descendaient de Ligue 2, qui étaient au-dessus. Donc voilà, maintenant on peut dire que le championnat national, c'est un championnat quasiment professionnel où les joueurs ne font plus que ça, et ça se ressent. On sent beaucoup plus d'équipes structurées et y a des bons joueurs dans chaque équipe, oui.
Et le niveau sur le terrain, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 10 ans?
Bah, il y a 10 ans, il y avait peut-être plus de que du duel. Maintenant, il y a aussi des joueurs très très techniques, très rapides sur les côtés, des bons milieux, et puis voilà, c'est quasi professionnel, ouais.
Vous n'avez encaissé que 4 buts. Saint-Brieuc n'a encaissé que 4 buts sur les 8 matchs que vous avez disputés. Alors, je sais que c'est peut-être pas facile pour vous d'en parler, mais est-ce qu'il y a un effet Christophe Carbrad dans cette équipe briochine?
Ça c'est rien. Tout le monde joue pour bien défendre, et c'est surtout ça. On a une équipe où tout le monde se met le cul par terre et ça défend à fond. Donc c'est ça aussi la réussite de ce peu de buts encaissés sur cette fin d'année civile. Tout ce qui a été fait avant que j'arrive, ça porte ses fruits aussi maintenant. Donc c'est pas que l'arrivée de Christophe Carbrad qui fait ça, non, c'est sûr.
Vous avez dit notamment que sur le match contre Bourg-en-Bresse vendredi, vous auriez dû marquer plus de buts. Qu'est-ce que Saint-Brieuc devra mieux faire en seconde partie de saison pour assurer son maintien et voir peut-être un tout petit peu plus haut au classement?
Bah, déjà, continuer à bien défendre, ça c'est la base. De pas prendre de buts, après d'être peut-être un peu plus tueur et peut-être un peu plus malin aussi dans le jeu, avoir un peu plus de vie et de maturité par rapport à certaines équipes qui ont forcément plus d'expérience, parce qu'on a une équipe quand même qui est jeune, où on a beaucoup de joueurs qui découvrent ce niveau, donc voilà, mais en tout cas l'équipe apprend très vite, ça c'est sûr.
Alors il nous reste 3 petites minutes à peine, Christophe, pour terminer cette interview avant 20h. On va parler de ce qui s'est passé pour vous aussi ce week-end. Vous avez été, alors comment on peut dire ça, décoré, en tout cas vous avez reçu un trophée honoré de la part des Calonnes, l'association des supporters de l'En Avant Guingamp. Comment ça s'est déroulé tout ça samedi?
Ça s'est déroulé très simplement, avec beaucoup d'émotions de ma part, parce que aller en avant de Guingamp, tout le monde sait ce que ça représente pour moi. C'est 9 années extraordinaires, avec quelques mauvais souvenirs, c'est sûr, mais beaucoup de très bons qui resteront à jamais dans ma mémoire. Donc ça a été organisé par Arnaud Toudic, le président des Calonnes, avec qui j'ai de très bons contacts. Je remercie déjà lui, et je remercie tous les Calonnes et tous les supporters de Guingamp pour ce moment où forcément ça me touche. Et puis j'ai reçu beaucoup de messages de supporters, de gens amoureux de ce club, et ça me fait très chaud au cœur.
Il est où le menhir aujourd'hui, Christophe?
Ben, il est pas très loin de la Coupe de France.
Ah, une très bonne place alors.
Bah oui, les trophées, j'en ai pas gagné beaucoup, donc voilà, la Coupe de France est là, et il a trouvé sa place à côté de cette coupe.
Dernière question, Christophe, on voit que c'est très 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 dur pour l'En Avant Guingamp en ce moment. Alors on va pas vous demander votre avis sur les résultats actuels, mais selon vous, votre avis maintenant un petit peu extérieur, de quoi aurait besoin Guingamp pour repartir une bonne fois pour toutes et digérer cette descente?
C'est difficile, je suis plus à l'intérieur, mais on sait comment ça va dans le foot, c'est fait de cycles, et je pense que si pouvait enchaîner des résultats positifs, et ben ça repartirait de l'avant, parce qu'ils ont quand même l'effectif qu'il faut, il y a le club qu'il faut, il y a les infrastructures qu'il faut. Maintenant, voilà, avoir un âme supplémentaire, mais surtout bien essayer de bien finir demain en allant gagner au PSC et pour pouvoir enchaîner dès 2021. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je leur souhaite.
Merci beaucoup, Christophe Kerbrat, d'avoir été avec nous encore une fois sur Radio Bonheur, et passez de bonnes fêtes. À bientôt.
Merci, c'est gentil. Bonne fête de fin d'année à tout le monde.
Merci, bonsoir.
Merci, au revoir. Au revoir.
Messieurs, il est presque 20h, une petite pause, les infos, et puis on va se retrouver justement pour parler de Guingamp.
Ah ouais,
ça ne fait pas plaisir à grand monde de parler de Guingamp ce soir, sauf si on n'aime pas Guingamp, parce que là, forcément, il y en a qui se régalent.
Peut-être un peu dans le 29, non? Ça, c'est...
dans le Finistère, c'est possible qu'on n'apprécie pas forcément Guingamp du côté de Brest, hein, parce qu'on le sait bien, il y a une rivalité évidemment entre Brest et Guingamp depuis très très longtemps. Guingamp dans le dur, une prestation désastreuse ce week-end, vendredi dernier. C'était en direct sur Radio Bonheur. On va revenir sur les conditions du direct, sur le résumé de ce match entre Chambly, la Lanterne Rouge et Guingamp après les informations de 20h. Radio Bonheur, 20h et 40 secondes.
Bonsoir à tous. L'Union européenne autorise le vaccin de Pfizer-BioNTech quelques heures après le feu vert de l'Agence des médicaments. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi après-midi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans l'affaire Alexia Daval, le volet pénal est en clos. L'affaire se joue désormais au civil. Au titre de la réparation de leur préjudice moral, les parents d'Alexia Fouillot réclament 360 000 euros à Jonathan Davan. Il a été condamné pour le meurtre de sa femme en novembre dernier. La scène s'est déroulée sous les yeux de sa grand-mère impuissante. Un accident dramatique a eu lieu ce jeudi dernier à Pantin. Accident dans lequel une petite fille de 3 ans a été renversée par un bus qui rentrait dans un entrepôt de la ville. À la suite du drame, un agent municipal a soulevé le caractère dangereux et accidentogène du lieu. Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé ce lundi à redoubler de vigilance après une mutation problématique du coronavirus qui a justifié la suspension pour 48 heures de toutes les arrivées en provenance du sol britannique. Cette mutation, avec une forme beaucoup plus agressive, montre la complexité de ce virus, son agressivité, oserais-je dire, son inventivité et l'humilité qu'il nous faut toujours avoir. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. À Marseille, il est le nouveau maire. Benoît Payan a été élu ce lundi en conseil municipal après la démission de Michèle Rubirola. Cette dernière avait mené la deuxième ville de France pendant un peu moins de 6 mois avant de partir en invoquant des raisons de santé. Et puis, April Benayoum a concouru au concours Miss France 2020 samedi soir comme représentante de la région Provence. Elle a d'ailleurs été élue première dauphine de Miss France. Alors qu'elle a révélé que son père est d'origine israélienne, elle est la cible de nombreux commentaires antisémites sur les réseaux sociaux. Une enquête pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale a été ouverte ce lundi. C'est ce qu'indique le parquet de Paris. Les réactions politiques et médiatiques ont été nombreuses pour condamner ces propos. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme avait donné rendez-vous devant la justice aux tweetos qui ont transformé Twitter en cloaque antisémite contre Miss Provence.
Minutes. Retour tout de suite des déchaînés du football, le magazine jusqu'à 20h30. Bon, un week-end catastrophique pour Guingamp. Oui. Guingamp qui perd de manière presque rocambolesque à
Chambly. Je vous les laisse un week-end, vous me les détruisez, mon petit Gaëtan.
On le rappelle, donc défaite 3-0 de Guingamp à Chambly, la lanterne rouge.
Qui n'est plus lanterne rouge maintenant.
Ah ouais, du coup, qui n'est plus lanterne rouge avec sa victoire sur Guingamp. Hein, c'est bien parce que ça permet au club qui joue contre Guingamp de relever la tête maintenant.
Malheureusement, c'est
un peu
bien.
Ce qui se passait en Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière saison de Ligue 1 de Guingamp, on se disait c'est bien. Guingamp, c'est l'équipe qui relance les clubs en difficulté. C'est un peu ce qui se passe cette saison aussi avec Guingamp, qui a pourtant joué en supériorité numérique pendant plus de 35 minutes. Et pendant ces 35 minutes, ils ont quand même. Ouais. Non seulement ils n'ont pas su en profiter et marquer, mais en plus ils ont continué de sombrer en prenant 2 buts supplémentaires.
Ils étaient menés
1-0 à 11 contre 11 et en étant en supériorité numérique, ils se retrouvent à perdre 3-0.
3-0 avec un match où Guingamp n'a jamais été en mesure de prendre les initiatives, on va dire, d'être au-dessus de son adversaire. À aucun moment, Guingamp est passé complètement à côté. Pourtant, on a eu des matchs très compliqués ces derniers mois, ces dernières années. Mais alors celui-là, c'était le summum encore, je crois, de ce qu'on a pu vivre. C'est
la cerise sur le gâteau.
Ces derniers temps, la cerise sur le gâteau. On va écouter tout de suite le résumé de ce Chambly-Guingamp, résumé en musique, avec un choix de musique subtil. Ceux qui la reconnaîtront, peut-être comprendront tout de suite. Écoutez.
Oh là là.
Attention, pénalty ou coup franc ? Pénalty ou coup franc ? C'est un pénalty pour Chambly. C'est parti pour Thibaut Jacques. Pied droit face à Basilio, c'est but ! L'ouverture du score de Chambly à la 21e minute de jeu. Guingamp, et bien décidément, ne s'en sort pas dans cette série galère. Chambly ouvre le score et Guingamp est une nouvelle fois mené dans cette saison de Ligue 2. Encore une première mi-temps qui, pour l'instant, ne tourne pas à l'avantage des Guingampais. 1-0 pour Chambly. C'est Soubervie qui va frapper ce coup de pied arrêté avec son pied droit. Soubervie, ça part fort vers la cage et Basilio qui détourne en corner. Basilio salvateur sur la parade salvatrice sur cette situation. Sur ce ballon pour Doucouré qui va frapper heureusement au-dessus. Heureusement qu'il a frappé beaucoup trop fort Doucouré et qu'il a levé ce ballon. C'est frappé directement dans la boîte et la barre trouvée sur cette tête de Baptiste Roux. Coup franc lointain pour Soubervie et Chambly, mais il faut tenir sur cette situation côté Guingampais, ne pas regagner les vestiaires avec 2 buts de retard. Ballon pour Doucouré dans la surface de réparation, en retrait, la frappe et encore Basilio pour détourner ce ballon. Au Romao avec Rodelin sur le côté gauche, Ndembe qui avait dédoublé, finalement Rodelin va choisir l'axe avec Mshangama. Rodelin encore, la frappe de Rodelin, elle est captée par Xavier Pinotto, elle était bien placée, elle a manqué d'un peu de puissance. Hop, 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 derrière, qui a mis un petit peu de temps à orienter son ballon, qui derrière a failli le perdre et qui surtout a commis la faute sur un Guingampais. Et carton rouge direct pour Maxence Derrien, le breton de Quimperlé expulsé donc face à Guingamp à la 58e minute de jeu. Voilà qui va peut-être enfin rebattre les cartes. Oh, le dégagement de roue manqué, frein d'Harry. Deuxième but d'Harry, mais qu'est-ce qu'il se passe? Le ciel qui tombe sur la tête des Guingampais. Guingamp qui pouvait égaliser il y a quelques instants. Et c'est finalement Chambly à 10 contre 11 qui assomme les hommes de Mecha Mazdarevic. Cette fois, ça se compromet sérieusement pour en avant. 2-0 pour Chambly. Guillaume Harry, Mshangama, il y a le bon appel. Ouais, il l'a vu. Il y a le bon appel de Paul Georges Ntep. Le contrôle dans la surface de réparation. Ntep qui va frapper l'arrêt de Pinotto. L'arrêt de Pinotto, elle était belle celle-là. Shaquille Delos sur le côté droit de la surface de réparation, il va s'infiltrer dans cette surface. Delos, le retour de Ndembe, frappe de Delos, 3-0, le calice jusqu'à la lie pour les Guingampais, humilié chez la lanterne rouge de Ligue 2, 3-0 cette fois. C'est Shaquille Delos qui vient mystifier Enzo Basilio, impuissant face à Chambly et face à l'attitude aussi de ses partenaires. 3-0 pour Chambly devant Guingamp. Et on va s'arrêter là dans ce match. Guingamp s'enlise cette fois de manière sérieuse et dangereuse. Défaite 3-0. Le chaos pour Guingamp qui s'incline chez la lanterne rouge. 3-0. Rien ne va plus pour le AG.
Ouais, après le chaos extra-sportif il y a quelques mois, on est en train doucement d'arriver dans un autre chaos sportif, lui.
Moi j'ai le chaos surtout du jukebox là, parce que je connais cette chanson, je l'adore, mais alors le titre.
C'est Conquest of Paradise, à la conquête du paradis, pendant que Guingamp était plutôt vers la descente aux enfers dans ce match. La petite subtilité.
Ah oui, mais ça fait du bien,
pour les, il fallait bien s'amuser un petit peu, parce que.
On en est rendu. Oui.
Voilà, on s'est pas trop amusé pendant ce match.
En tout cas, on descend bien bas à Guingamp.
Ouais.
On ne sait plus ce qui peut arriver maintenant à cette équipe de Guingamp.
Non,
changement, on le rappelle quand même, il y a quelques mois seulement. Changement de président, ça n'arrive pas tous les jours dans un club. Hein. Changement d'entraîneur, on peut comprendre, mais changement de président, quasiment concomitant à un changement d'entraîneur. Changement d'entraîneur qui, on le rappelle, n'est resté que deux petites journées, là aussi un record
sur cette saison,
en Ligue 1. Et puis là, un nouvel entraîneur, Bazdarevic, qui fait ce qu'il peut. Mais on a l'impression qu'on pourrait changer 10 fois d'entraîneur. Rien n'y ferait. Il y a d'autres choses à faire dans ce club. Mais quoi? Parce qu'on peut se poser la question maintenant. En tout cas, honnêtement, je pense que si Bazdarevic sert de fusible, ça ne servira à rien.
Ah non.
Sauf si on veut continuer la valse des entraîneurs. Mais à mon avis, ça ne fera qu'empirer la situation. Parce que c'est certain, hein, c'est dans les tuyaux. Certainement, quand un club va mal, forcément on parle de l'entraîneur, c'est systématique, alors quelquefois ça fuite ou pas, mais là on n'a pas de fuite hein, sur Bazdarevic, c'est moi qui m'aventure sur le sujet, mais en tout cas je pense que ce serait une grave erreur que de se séparer de Bazdarevic, parce qu'à mon avis il n'y est pour rien.
On va tout de suite écouter le son numéro 12, Dominique, on reviendra sur les autres après. La question lui a été posée en conférence de presse après le match à Chambly: est-ce que les joueurs ont lâché Mecha Bazdarevic? La réponse de l'entraîneur:
ils ont lâché eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont lâcher, quoi. C'est... Je pense que moi, en tant que joueur, j'ai fait un match comme ça, j'aurais honte pour moi et pour ma famille. Je ne parle pas des clubs, etc. Non, je pense que tout simplement, tout ce qu'on a fait, c'était beaucoup d'approximation. Il n'y avait pas de justesse, il n'y avait pas de drift, il n'y avait pas de conservation des ballons. On peut parler une heure, mais il n'y avait rien ce soir.
La honte, mais pas sur Bazdarevic, sur les joueurs. C'est ce que dit Bazdarevic.
Ils se sont lâchés eux-mêmes, les joueurs, qui vraiment, parce que finalement, Mecha Bazdarevic, on le sent vraiment impuissant face à cette situation. Et tout entraîneur le serait. C'est vraiment
un sentiment d'impuissance. C'est ce qu'on a ressenti pendant la conférence de presse, juste après le match.
Ouais.
Cet entraîneur dépité de ne pas pouvoir aider davantage cette équipe de Guingamp qui ne suit pas apparemment les consignes. Racing qui se débrouille bien pendant les entraînements, c'est ce qu'on a compris. Enfin, Bazarevic le
dit. Oui, ce qu'il met en place la semaine, c'est cohérent, en tout cas, voilà, ce que nous dit Michel Bazarevic.
Et puis, quand le match arrive, quand vraiment l'épreuve du feu est là, eh bien, il n'y a plus d'équipe.
Non, et il dit souvent d'ailleurs que les consignes ne sont pas respectées pendant les matchs. C'est peut-être là-dessus que vous vouliez aussi rebondir, Pierre.
Non, je vois plus loin parce que il y a eu Dido, il y a eu l'air. Depuis la descente, hein, on peut même remonter peut-être
au retour de Bourbennec,
où c'était quand même pas flamboyant. Et c'est toujours la même chose.
C'est toujours la même chose.
Voire pire.
Oui, ça se dégrade. Ah, oui.
Ça se dégrade parce que là, on est en Ligue 2, les enfants. En Ligue 1, on n'était pas fiers parce qu'on perdait régulièrement. Mais là, c'est la deuxième saison de Ligue 2. Et on s'approche.
Alors, avec tout le respect, Chambly fait un parcours extraordinaire. Mais on se fait tamponner par Chambly, le dernier de Ligue 2, 3-0, 3-0 à, 10, à 11 contre 10.
C'est quand même très.
Et surtout, on ne sent pas de révolte. Il y a eu une réunion entre le COP et les joueurs avant le dernier match à domicile. C'était. Je m'en rappelle plus.
Valenciennes.
Et il n'y a pas eu d'effet. Et je pense qu'il y a des joueurs dans cet effectif qui n'en ont pas ou peu à faire de cette équipe, qui n'ont rien à faire du club.
Vous me faites la passe décisive, parce que ce qui m'a choqué sur ce match, au-delà du jeu, ce sont les attitudes des joueurs. On écoute tout de suite la réaction de Mecha Bazdarevic à propos des attitudes de ces joueurs.
Bah, je pense, parce qu'après, est-ce que d'autres qui étaient là, qui s'est tout de suite installé parce qu'on prend le but et puis on n'est pas en confiance, mais je ne sais pas pour quelle raison, parce que bien travaillé, ils ont bien joué, on a bien joué le dernier match, tout simplement on l'a bien préparé. Pour ça, j'ai vraiment du mal d'accepter de surtout ce comportement. Voilà. Après, encore une fois, c'est très difficile de vous répondre parce que il n'y avait rien.
C'est dur.
Là,
hein.
C'est là où le problème de l'entraîneur, pour moi, c'est pas le problème principal. Il y a plein de problèmes, mais Bazdarevic, ok, il n'y a pas de résultat avec lui, mais moi je pense que surtout, il n'y a pas d'autorité dans ce club qui fait prendre conscience aux joueurs. Il faut un électrochoc. Alors parfois l'électrochoc, c'est de changer d'entraîneur. On voit bien que là, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu l'intervention des supporters qui sont revenus. On en reparlera en fin de magazine.
Le lendemain du match.
Là, il faut un électrochoc. Sinon, on ne sait pas ce qui peut se sauver et surtout réveiller cette équipe. D'une part, réveiller cette équipe et sauver Guingamp. Parce que là, c'est la survie du club qui est en jeu. Là, il faut vraiment prendre conscience des choses. Que ce qu'on voit depuis 2-3 mois, ils ne sont même pas au niveau de la Ligue 2.
Non, c'est une longue descente aux enfers qui se profile depuis plusieurs mois maintenant. Et Mecha Bazdarevic, sur ce match, a même parlé de faute professionnelle. On va l'écouter à nouveau, l'entraîneur Guingampais.
Vous savez, moi, ça fait un mois et demi que je le rentre dedans à toutes les manières. Et puis, quand on voit ces soirs ce qu'ils font, vous savez, on fait tout pour le bien faire et puis pour les ramener justement jusqu'au coup de sifflet d'arbitre. Et puis ensuite, c'est à eux de respecter. Mais je pense que ce soir, il n'y avait rien qui était respecté, ce qu'on a mis en place, il n'y avait rien qu'on a demandé. Et c'est, je crois, presque faute professionnelle.
Ouais, quand l'entraîneur parle lui-même de faute professionnelle de ses joueurs.
Il a dû vous entendre, Dominique, parce que vous avez parlé de ça après le match.
je l'avais dit juste à la fin du match. C'est quand même incroyable parce qu'on peut perdre. On peut mal jouer, mais il y a des façons de faire. Mais là, perdre à 11 contre 10 chez la Lanterne Rouge et avec la manière dont ça s'est passé, 3-0, il n'y a pas que le score.
Et avec la série qui précède.
Oui, et en plus avec ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avant. Là, c'est vrai que moi, je l'avais évoqué aussi. On pouvait penser à une faute professionnelle, ça va loin.
L'entraîneur lui-même l'a dit effectivement, et ce qui est choquant encore plus peut-être, c'est la fin de sa réaction où il dit il n'y avait rien qui n'a été respecté, rien de ce qu'on avait mis en place n'a été respecté, suivi par les joueurs.
Ouais, il l'a répété.
Il l'a répété parce que vraiment au bout d'un moment, l'entraîneur, on peut lui taper sur les doigts tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où il a fait son boulot, il a mis tout en place, c'est aussi au joueur de répondre derrière, de se prendre en main, de se prendre en charge.
Parfois, des fois, ça peut aussi faire partie d'une certaine tactique des entraîneurs pour s'éloigner un peu. J'ai pas l'impression, quand même, je crois pas. Et surtout, vu ce qui s'est passé avant avec les autres entraîneurs, j'ai pas l'impression que ce soit un problème d'entraîneur. Et moi, franchement, Mecha Bazdarevic, on l'a dit dès qu'il est arrivé, à partir du moment où il est arrivé, le lendemain, ou quelques jours après, il était déjà dans une position intenable. Parce que les personnes qu'il avait choisies, déjà, il remplace un entraîneur au bout de 2 journées, donc c'est pas très agréable. C'est parce qu'il n'a pas choisi l'effectif, il n'a pas fait la préparation. Et au bout d'une semaine, le président part et le directeur sportif, qui est sans doute parti. On n'a pas eu de confirmation officielle.
Gravelaine. On n'est pas sûr.
C'est lui qui l'a choisi.
On n'est pas sûr. Il fait peut-être encore partie du club, Gravelaine.
Début d'année 2021.
Ouais, a priori, début d'année 2021, il devrait officiellement quitter le club. Enfin bon, en tout cas, il n'officie plus. Mais
au bout d'une semaine, sa position était
délicate.
Délicate.
Oui, parce qu'il est choisi par Xavier Gravelaine qui part dans la foulée. Donc c'est vraiment à ne rien comprendre.
Et c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on disait au moment du mois de septembre. C'était terrible en termes d'éthique pour Mecha Bazdarevic de s'en séparer au bout d'une semaine. Mais ce club, et on le redit, on est en décembre 2020, a besoin d'une refonte globale, peut-être totale sur le plan sportif et peut-être même financière, parce qu'on a quand même des bruits qui sont assez inquiétants sur la situation financière du club, qui est partagé par beaucoup de d'autres clubs.
C'est pas le seul club.
Télé,
je pense qu'il y a quand même un matelas de sécurité que Guingamp avait mis de côté.
De ce qui se dit, pas tant que ça. Mais on attend confirmation parce que les clubs se multiplient devant la DNCG, donc Guingamp va y passer bientôt. Et apparemment, ce serait pas aussi confortable que ce qu'on pourrait penser ou que ce qu'on pensait il y a quelques temps. Donc bon, on n'en sait pas plus, mais on attend de voir, effectivement.
Guingamp a eu deux occasions de briser, peut-être, de repartir sur un autre projet après la descente de Ligue 1. Il y a eu mai 2019, quand il ne prolonge pas Gourvennec, qui voulait avoir un plan sur 3 ans pour vraiment faire une refonte sportive.
C'est peut-être là l'erreur la plus importante, à mon avis. C'est là que ça s'est joué.
Presque 2 ans après, le club n'a pas avancé. Il y a eu un autre moment capital, en septembre, quand vous vous séparez de Didot, quand vous vous séparez du président, du directeur sportif. C'était le moment aussi.
Oui, il y en a eu un deuxième, mais c'était moins flagrant parce qu'on venait de nommer un nouvel entraîneur. C'était difficile de s'en séparer aussi rapidement. On peut comprendre avec un nouveau président que c'était plus compliqué. Pour moi, l'erreur principale, effectivement, elle date de mai 2019, de ne pas avoir prolongé. C'était tellement plus simple.
Oui, parce que là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai que Gourvennec avait fait les 6 mois et que Gourvennec n'a pas aidé, n'a pas pu empêcher la descente. Voilà. Le mercato n'avait pas été bon, etc.
Il y avait un repêchage, c'est vrai, au mois de septembre. Le club n'a pas saisi ce repêchage.
Et là, on ne voit pas. Parce que Bazdarevic, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, laissez Gravelaine. Vous repartez sur une politique sportive. Vous savez ce que vous devez faire. Quel genre de joueur vous voulez recruter? Est-ce que vous faites plus confiance à la formation? Ou alors vous prenez un autre.
Parce que là, il n'y a aucune ligne directe.
Là, il n'y a rien.
Il est dans le flou, l'entraîneur. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, mais en tout cas, c'est qu'il est, désarmé. Il navigue à vue parce que il faut bien avancer. Les matchs sont là, mais il n'y a aucune ligne directrice, aucune ligne de conduite qui est tracée et à suivre derrière par tout un club, pas seulement par l'entraîneur, par les joueurs, par l'effectif professionnel, mais par l'ensemble d'un club.
Parce que déjà, c'est dur d'avoir une, apparemment, pour ce Guingamp-là en ce moment, d'avoir une ligne directrice claire. Mais en plus, si on choisit une ligne directrice, ça ne veut pas dire qu'elle va réussir, cette ligne-là. Mais
non,
au moins,
il y a toujours une part de risque, évidemment, dans tous les résultats, dans tous les clubs. Si tous les clubs ont une ligne directrice, il y en aura quand même 2 à descendre à la fin. Mais il faut quelque chose de, au moins, mais il faut quelque chose de serein pour avancer, parce que sinon c'est clair qu'on s'expose à des catastrophes comme celle de Chambly vendredi et comme cette série de 9 matchs consécutifs.
Il y a ça aussi,
victoire.
Parce que non seulement c'est une défaite 3-0 contre le dernier, à 11 contre 10, mais en plus c'est dans la suite de tout ce qui se passe depuis 2 mois et demi, c'est-à-dire
il y aurait eu 2-3 victoires avant,
victoire.
On aurait pu dire allez, c'est un accident, là non, c'est une faillite et presque une démission
c'est
collective.
C'est une confirmation de ce qui se passe depuis 2 mois et demi.
Mais ce qui se passe en bas, on vous le dit depuis des mois, ce qui se passe en bas avec les joueurs, cette démission-là sur le terrain, ce qu'on a vu, c'est une pyramide. Si en haut ça ne va pas, en bas ça ne va pas.
Après, il va falloir aussi à un moment que les joueurs passent peut-être au-dessus de ça, au moins pour sauver le club en Ligue 2, parce que sinon, dans ces cas-là, on va.
Ça n'en prend pas le chemin. On n'a pas l'impression que ça en prenne le chemin. Une petite pause, messieurs.
On va se calmer. Je vais vous mettre un petit peu d'eau sur la
figure.
Dans 2 minutes et 20 secondes, on continue de parler de cette équipe de Guingamp qui ne va pas bien. Et Guingamp qui rejouera dès demain. On en parlera aussi dans quelques minutes avec un déplacement au Paris Football Club.
Le grand loto de Noël? Écoutez, mon petit Bernard, à mon époque, on disait toujours qu'il fallait se contenter de peu.
C'est 15 millions quand même, hein?
Ah, vous savez, on disait beaucoup de bêtises à mon époque.
Et vous, ça vous dirait quelques millions? Vendredi 25 décembre, grand loto de Noël de 15 millions d'euros minimum et 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort, voire règlement.
FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Cette année, beaucoup de choses ont changé. Mais Noël restera toujours Noël. Un moment si gourmand. Vous pourrez toujours proposer le dernier Ferrero Rocher en espérant qu'il soit pour vous. Et déposer un Père Noël Kinder sous le sapin. Ou encore rendre vos bûches plus gourmandes avec Nutella, craquer pour un biscuit de l'acre ou partager une boîte de Mon Chéri. Pour les fêtes, Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Mon Chéri et de l'acre vous attendent en magasin, en drive et en livraison à domicile avec Deliveroo et Uber Eats. Ferrero, Noël ensemble autrement. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Carrefour.
Père Noël, cette année, j'espère qu'on aura plein de bonnes choses à manger.
Alors chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, on n'est pas le Père Noël, mais nous ferons tout pour que vous vous régaliez. Alors qu'on les aime nature, grillés, salés ou non, dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, pour deux sachets d'amandes Wonderful achetés, le troisième est offert, soit 2,30€ le sachet. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour.
Vendu seul 3,45€, 200 grammes, origine États-Unis, différentes variétés. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.
Oh là là, j'offre quoi à Théo ? Un jour il aime le running, après c'est le foot, et le samedi suivant, c'est le polo-vélo.
Le quoi ? Le polo-vélo ? Hein ? Ça existe ça ?
Eh oui.
Bon bah, je sais pas, laisse-le décider, hein.
Le sport est élu cadeau de l'année, alors vivez un Noël de rêve avec Intersport. Avec la carte cadeau Intersport, vous offrez du sport à la carte. C'est un moyen simple de faire plaisir. Intersport. Voir conditions et magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponibles.
Chérie, faut que tu m'aides là.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?
J'ai rendez-vous avec Volkswagen, mais je retrouve pas l'adresse.
L'adresse ?
Bah oui, pour aller voir leurs nouvelles offres. Je vais être en retard là.
Ah, ok. T'as de quoi noter ?
Oui.
C'est Volkswagen.
Point.
FR.
Point FR. Ah, bah oui.
Ah, bah oui.
Et pour essayer la nouvelle ID3, nos concessions sont ouvertes. Préparez votre visite sur Volkswagen.fr et découvrez la nouvelle ID3 à partir de 199€ par mois jusqu'au 31 décembre. Location longue durée 37 mois, premier loyer 4100€, si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Volkswagen.fr.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0. À Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9. C'est le dernier magazine des déchaînés du football de l'année, 20h et 24 minutes, hein, puisque lundi prochain, ce sera la trêve des confiseurs. Pas de magazine des déchaînés du football entre Noël et le premier de l'an. On reviendra dès le lundi suivant, dès l'année 2021, dès le premier lundi de l'année 2021. 20h24, voilà, Guingamp. Guingamp, on ne sait plus quel adjectif qualificatif utiliser pour,
pour
ce club.
Guingamp dans la panade, en tout cas, après cette défaite, parce que Guingamp n'a plus que 3 points d'avance sur les 3 derniers. Il y en avait 4 avant ce match à Chambly, plus que 3 maintenant, et chaque semaine, ce matelas qui s'amenuise, qui se rétrécit. 3 points d'avance sur les 3 derniers, hein, carrément, pas seulement sur le 18e, mais également sur les 19e. Oui,
parce que ça se resserre derrière. C'est vrai
ça
que
se
depuis 2-3 journées, on avait l'habitude de voir toujours un ou deux clubs derrière.
Oui, le problème,
derrière,
c'est que là, il y a eu des confrontations directes aussi, notamment Ajaccio qui a battu Nancy, Rodez et Châteauroux qui
Chambly
ont pris un point chacun, Chambly qui a gagné, et Guingamp qui pendant ce temps-là n'a pas pris deux points sur cette soirée de Ligue 2. Mais Shabazz Darevitch, on l'a dit, impuissant, et qui a exprimé sa détresse en conférence de presse.
Bah, vous savez, c'est impuissant parce que je suis à côté, j'arrive pas, malgré vous avez vu, j'étais très actif, j'ai bougé, j'ai poussé, mais voilà, à un moment donné, on essaie de changer, on essaie de ramener des joueurs frais, mais c'est vrai, à un moment donné, on avait des possibilités d'éventuellement revenir, mais après, vous savez, le deuxième but, surtout 10 contre 11, c'est encore une fois, c'est très 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 difficile d'accepter.
Très difficile d'accepter cette défaite pour l'entraîneur aussi.
Évidemment, parce qu'il avait mis, à l'en croire en tout cas, on lui fait confiance, il avait mis apparemment un plan en place la semaine avec les joueurs, ce qu'on entendait tout à l'heure, qui n'a donc pas été respecté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'il y a le match contre le Paris FC demain.
Le dernier avant la trêve.
Oui, le PFC qui est en net moins de forme depuis 5 matchs, je crois. Hein. Ça fait 5 matchs sans victoire. Ils ont perdu à Clermont 3-2 ce week-end, mais ça reste une équipe du haut de tableau. Ceci dit, Guingamp a plutôt bien réussi contre des équipes du haut de tableau.
Bah, quand on regarde, il y a quoi, 3 victoires, il y en a 2 contre les 5 premiers, Grenoble et
OCR. En même temps, Paris FC a besoin d'être relancé là.
Oui, donc c'est peut-être le bon moment de jouer Guingamp alors, j'espère pas.
D'ailleurs, il y a El Hadjiba qui a été pris dans le groupe. Retour d'El Hadjiba.
Et Rodney Rodelin, est-ce qu'il est là parce qu'il parlait de l'absence?
Rodelin n'est pas là.
Ouais. Il est absent pour ce match, c'est ce dont parlait Mecha Bazdarevic en conférence de presse ce matin.
Retour de Niakate aussi de suspension, sinon Pierrot, Feton, Entep sont là notamment.
Et Valdivia qui est toujours absent aussi. Le Paris FC qui se profile donc sur la route des Guingampais. Quoi faire maintenant après cette déroute et pour ce dernier match de la phase aller? Écoutons à nouveau l'entraîneur des Rouges et Noirs.
Quand tu fais un match comme ça, vous savez, vous imaginez un petit peu de... Ça peut friter entre moi et le joueur, c'est ce qui me paraît normal. Après, vous savez, il faut bien analyser, relativiser, regarder tranquillement et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les matchs de mardi. Mais ce qu'ils ont fait encore ce soir, c'est vraiment loin de l'équipe professionnelle.
Oui, c'est loin d'un comportement d'une équipe professionnelle qui avait en tout cas des ambitions en début de saison bien plus hautes que
de monter en Ligue 1, on le rappelle. Ouais, hein, ouais. C'était affiché il y a quelques mois.
C'est loin tout cela maintenant et les supporters forcément font savoir leur mécontentement. On parlait, Pierre, d'une réunion entre joueurs et supporters.
Quarantaine
avant
de
le
supporters
match contre Valenciennes.
Oui, c'est vrai.
Qui n'a pas vraiment été suivi des faits parce que derrière il y a eu un match nul contre Valenciennes. Correct, plutôt bon en deuxième mi-temps, mais il y a eu ce désastreux Chambly-Guingamp dans la foulée et une nouvelle réunion avec
les supporters qui sont arrivés.
Oui, ils n'étaient pas invités.
Sans violence, mais qui ont interrompu du coup l'entraînement avec donc Mecha Bazdarevic qui a pris la parole, quelques joueurs également. Et d'ailleurs, Mecha Bazdarevic, lors du point presse de ce matin.
Non, les joueurs n'ont pas parlé, ils les ont écoutés, je crois, mais les joueurs.
Il me semble que Jérémy Sorbon a pris la parole.
Oui, il est toujours là, Sorbon, évidemment, mais.
Ça devait être le
staff aussi a été apparemment très très honnête avec les supporters. En tout cas, parmi les bruits, les tweets que l'on a pu voir, c'est ce qui est ressorti. Hein. Le staff très touché, très honnête avec les supporters. Mais là, voilà, on le dit vraiment, c'est aux joueurs de se prendre en main.
Et ce matin, en conférence de presse, puisqu'il y avait une conférence de presse avant le match de demain face au Paris FC, Mecha Bazdarevic est revenu sur cette nouvelle venue des supporters à l'encontre des Guingampais.
J'ai vu les gens qui sont toujours là, tellement attachés. Ils sont touchés aussi. Et justement, je le dis, ce que j'ai envie de vous dire. Quoi. Moi je suis un combattant, on fait tout, on le donne tout. Et après, c'est sûr, quoi. Je pense que ce que je demande depuis quelques semaines, l'état d'esprit, maintenant encore peut-être plus. Déjà des combattants, des revanchards, des garçons qui ont vraiment envie de montrer que cette match, c'est un accident. Parce que quand même, tout avant, c'était pas parfait, mais il y avait des très bonnes choses, malgré qu'on cherchait cette régularité, cette stabilité dans un match.
Alors, dixième match sans victoire face au Paris Football Club demain soir, Gaëtan?
Ben, on peut être tenté de penser que oui. Après, bon, le Paris FC va moins bien. Alors, je pense toujours que c'est jamais bon d'avoir des joueurs absents, mais parfois, on se dit qu'avoir des joueurs absents, ça peut forcer à lancer d'autres joueurs et trouver d'autres solutions, peut-être. On pense notamment au retour d'El Hadjiba, qui pourrait, alors ça sans doute pas titulaire, mais voilà, il y a Franz Di Pierrot qui va être là encore, Mathias Feton, en l'absence notamment de joueurs de Ronny Rodelin ou de Valdivia, qui lui est toujours aussi absent, mais ça peut lancer peut-être d'autres joueurs. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune solution.
Le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas d'équipe. Pour avoir regardé le match vendredi, je me suis fait une réflexion, mais je me dis, tout le monde court dans son coin. Dans cette équipe. Il n'y avait pas de lien et c'est très inquiétant. Mais bon, il vaut mieux que ce match arrive en décembre plutôt qu'en mai. Donc espérons quand même qu'il y ait une sorte d'électrochoc, ce déclic pour les Guingampais et que ça reparte. Parce que, on le dit depuis quelques mois, quelques semaines surtout, il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup souffrir et peut-être très longtemps encore cette saison pour les supporters de l'En Avant Guingamp.
Ouais, En Avant qui est 15e avec 16 points en 16 matchs, soit 3 d'avance sur Nancy, Châteauroux et Rodez qui ferment la marche.
On le rappelle donc demain, match à vivre en direct sur Radio Bonheur, dernière chance pour que ça aille un tout petit peu mieux peut-être du côté de Guingamp avec ce déplacement au Paris Football Club. Match à 19h ou 20h, je ne sais plus.
20h,
ça change tout le temps.
Oui, c'est
match à 20h.
19h30. Prise d'antenne 19h30 au Paris Football Club.
Je prévois la doudoune Radio Bonheur pour Charletti, parce que...
Ça sera avec vous, Pierre, demain soir, dès 19h en direct sur Radio Bonheur. Bon, on espère une réaction, mais c'est ce qu'on dit depuis 2 mois et demi. Alors,
vous savez quoi, on va dire, on espère rien de ce match.
Voilà. Ce sera du bonus s'il se passe quelque chose. Merci à Sébastien qui a été à la régie vidéo ce soir derrière la vitre pour la page Facebook des Déchaînés du Football pour vous voir en images, messieurs, ce soir depuis 19h. On se retrouve donc demain matin 8h40, la rubrique, et puis évidemment dès 19h30 pour ce match entre Guingamp et le Paris Football Club. Déplacement à Charletti à Paris pour ce dernier match de la saison de Ligue 2 pour les Guingampais. Match à vivre sur nos émetteurs FM dans les Côtes d'Armor, nos émetteurs FM de Saint-Brieuc, de Guingamp et de Lannion. Pour les autres, rendez-vous sur le site internet de Radio Bonheur si vous voulez vivre ce match en direct avec nous sur le www.radiobonheur.com. Vous allez sur le player spécifique dédié sur la première page du site internet de Radio Bonheur pour vivre ce match en direct et en intégralité sur Radio Bonheur. Bonsoir Gaëtan, bonsoir Pierre, à demain.
Bonne soirée, à demain.
Bonsoir.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.
Radio Bonheur, 100% chansons françaises.